Όχι, 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 μου σημαίνει σαν θέλω για σαν. Και εσύ το τάλμαστε και
σαν. Ότι υποβοηθεί ο Περσαγκάζ, πως ο Μινόνις, πριν της όπου παραπόλτα.
Bonjour, le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spécialisée des droits de l'homme est en examen à la Chambre haute du Parlement. Ce projet entend mettre en place un tribunal spécial pour juger les auteurs et commanditaires des violations massives des droits de l'homme telles que les crimes contre l'humanité, de guerre, de génocide commis dans le pays depuis 1990 à ce jour. La Cour prévoit dans sa composition une ouverture aux magistrats étrangers. Selon le ministre de la Justice et des droits humains qui a présenté ce projet de loi au Sénat, la Cour spécialisée des droits de l'homme matérialise la lutte contre l'impunité. Elle correspond à la volonté de renforcer, d'accélérer le processus de réforme institutionnelle de l'appareil judiciaire et sécuritaire. Ce tribunal aura pour mission d'organiser les enquêtes, les poursuites et les jugements des personnes présumées responsables des crimes internationaux. Que pensez-vous de la création d'une Cour spécialisée des droits de l'homme? Notre invité est M. Guy Mouchata, il est chargé du programme de lutte contre l'impunité au Centre international pour la justice transitionnelle. Titi Poutou et Pierre Lamézi réalisent cette émission. Le Jean-Noël Mokondo est à la mise en onde. Marie-Chantal Mouba vous la présente.
Paroles aux auditeurs par internet ca@radiookapi.net.
En attendant l'arrivée de notre invité, comme nous l'avons dit dans l'introduction, M. Guy Mouchata, il est chargé du programme de lutte contre l'impunité au Centre international pour la justice transitionnelle. Ce centre, c'est une organisation internationale qui permet, qui apporte un soutien aux sociétés qui veulent consolider la confiance civique dans leurs institutions à travers des dispositifs de protection des droits de l'homme. Nous avons déjà nos invités qui veulent participer à cette émission, qui veulent dire ce qu'eux ils pensent de la création d'une Cour spécialisée des droits de l'homme. Il faudrait dire qu'au cours de l'exposition de ce projet de loi par le ministre de la Justice et des Droits Humains, cela avait soulevé des grandes discussions au Sénat. Certains sénateurs pensent que cette cour est inopportune et sans importance. Et pour ça, parce qu'ils pensent que les cours et les tribunaux internes ont la capacité de pouvoir juger ces genres de crimes si on arrivait à les renforcer. Mais tandis que d'autres sénateurs, ils ont estimé qu'effectivement, c'est d'actualité et cela, une cour qui, si elle arrivait à être instituée, permettrait de pouvoir lutter plus efficacement contre l'impunité. Dave de Kindo est en ligne, Jean-Claude de Kinwanja, sans oublier que je sais que vous êtes très nombreux à vouloir participer et vous avez composé le 081 890 69 69. La réalisation me fait signe que notre invité sera au bout du fil, il ne sera pas dans notre studio, mais comme il est là, nous allons commencer avec lui. Bonjour M. Guy Mouchata. Nous parlons de ce projet de loi qui entend créer une cour spécialisée des droits de l'homme. Dites-nous un peu, vous, en tant que spécialiste en la matière, quels sont en fait, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit une cour spécialisée des droits de l'homme? Quelles nuances cela change-t-il de nos tribunaux et nos cours et tribunaux habituels?
Merci beaucoup, madame. Mais pour reprendre l'intitulé correct de ce projet de loi, il porte le titre, donc, projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spécialisée de la répression des crimes de génocide, crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Donc, vous voyez déjà vous-même dans son intitulé l'objet de cette Cour, c'est donc de réprimer les crimes qui relèvent donc du droit international. Et la spécificité, justement, c'est que ce sont des crimes qui concernent le droit pénal international, mais comme tels, qui sont des crimes qui ne sont pas tout à fait organisés, je dirais, à l'heure actuelle, de la bonne manière au niveau de nos juridictions. Au jour d'aujourd'hui, ce sont de jeunes gens militaires qui ont la compétence pour réprimer les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide. Mais là, on veut avoir une cour spécialisée, une juridiction, qui serait une juridiction autonome et qui permettrait donc d'avoir davantage d'efficacité pour la répression de ces types de crimes.
Et dis-nous quelles sont les relations qu'il pourrait y avoir entre une telle juridiction avec les cours et tribunaux qu'on a l'habitude ici en RDC?
On sait au jour d'aujourd'hui que la loi qui organise les juridictions de l'ordre judiciaire a attribué la compétence sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide à leur cour d'appel. Mais au jour d'aujourd'hui aussi, la loi de mise en œuvre qui devait accompagner, la loi de mise en œuvre du statut de Rome, voulais-je dire, qui devait accompagner donc cette compétence, n'a pas toujours été adoptée et elle traîne encore devant donc l'Assemblée nationale. Et voilà, nous avons là une autre loi qui finalement a la même matière que cette proposition de loi de mise en œuvre, mais qui, elle, certainement, va passer avant. Et c'est ainsi que la plupart des gens ont parlé de la nécessité de l'harmonisation entre les deux textes de loi. Et au jour d'aujourd'hui, donc, nous avons ce projet de loi qui vient d'être déposé pour une procédure d'urgence au Sénat. Et d'autre part, nous avons la proposition de loi de mise en œuvre qui, elle, est devant donc l'Assemblée nationale.
Mm-hmm.
Les travaux de ces deux textes vont certainement continuer, mais ce qui est un peu, je dirais, regrettable, c'est qu'on constate que dans l'acte qui convoque la session extraordinaire, on n'a pas mentionné la proposition de loi de mise en œuvre du statut de Rome.
Mais aussi, dites-nous, c'est vrai que pour le commun des mortels, c'est assez compliqué de savoir toutes les procédures. C'est vrai qu'il est nécessaire que chacun d'entre nous qui prétend pouvoir jouir d'une justice équitable doit faire un effort pour comprendre un peu la procédure judiciaire. Mais et pour le commun des mortels, il se pose des questions pour savoir une cour spécialisée des droits de l'homme, quelles seront les personnes qui peuvent disons, saisir le procureur.
Je pense que la procédure va être organisée au niveau donc de la juridiction et que certainement, pour le moment, ce qui est prévu lorsqu'on lit la loi, c'est que la procédure applicable devant la cour est la procédure qui est organisée par exemple notre code de procédure ordinaire. Et comme tel, donc, les individus pourront saisir le procureur ou de sa propre initiative, donc le procureur général pourra donc prendre l'initiative de pouvoir engager des poursuites lorsqu'il juge que les faits qui tombent sous la compétence de la cour donc ont été commis.
Et quelle est cette spécificité de cette cour spéciale, c'est qu'elle il y a une ouverture aux magistrats étrangers. Est-ce qu'à votre avis, pour ceux qui les observateurs, est-ce que cela ne pourra pas jouer un peu sur la souveraineté même d'un État?
Bon, je pense que de nombreuses personnes peuvent se questionner de cette manière, mais on n'ignore pas, si on prend la tradition judiciaire de notre pays, on a eu à un moment donné, et même jusqu'encore dans les années 90, peut-être que je ne comprends pas, des magistrats étrangers ou des conseillers qui étaient à notre Cour suprême de justice. Je pense que la question de la souveraineté ne se pose pas tellement, parce qu'il est prévu des mécanismes par lesquels ces magistrats étrangers donc, seront intégrés dans notre système judiciaire. Et c'est notamment qu'on puisse disposer des accords bilatéraux, et je pense qu'on précisera dans ces accords comment cela pourra fonctionner, comment ces magistrats pourront certainement dépendre aussi en quelque sorte de la déontologie et agir sous le contrôle du Conseil supérieur de la magistrature. Et dans tout cela, évidemment, le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas exclu.
Restez avec nous le temps d'écouter Blaise qui se trouve à Kindu, Jean-Claude à Kiwanja. Et vous me dites ce qu'ils pensent de la création de ce tribunal un peu spécialisé, tout juste après ceci.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Blaise.
Bonjour Marie-Chantal Bumba, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Kaki.
À partir de Kindu, quelles sont vos analyses? Que pensez-vous de la création d'une Cour spécialisée des droits de l'homme?
Merci Marie-Chantal. La création de cette structure-là est bonne, parce que nous, comme les Congolais, nous avons toujours été experts pour les textes. Mais la seule implication, le grand problème, c'est quoi? Nous n'avons jamais été en mesure de mettre en application ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, on a proposé, après combien de temps? On dit depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, combien de crimes ont été effectués, ont été commis, et maintenant on a proposé maintenant des lois. Et puis, on sera en mesure que nous sommes rassurés que ce cours-là, sera vraiment exécuté, aura lieu dans notre pays. C'est un problème de la mise en application de ce que nous sommes en train de faire. Voilà, Marie-Chantal Bumba, qui nous dit. Et en plus de ça, je voulais demander à notre invité. Par rapport à la gestion, c'est-à-dire c'est le pays de ce niveau international, comment est-ce que cela sera géré au niveau de notre pays? Parce que nous savons aujourd'hui, il y a ceux-là qui sont jugés en dehors de notre pays, et comme maintenant on va constituer cette structure au niveau de notre pays, parce qu'il y aura encore, après par exemple, la PPI, ainsi de suite. Voilà un peu ma préoccupation par rapport à ce sujet.
Merci beaucoup Blaise de Kindu. Nous allons accorder la parole à Jean-Claude de Kiwanja. Bonjour.
Bonjour madame.
Jean-Claude, nous vous écoutons.
À mon avis, je crois que l'idée était bonne. Mais la façon dont je constate aujourd'hui, ça ne peut pas être de cette façon-là. Parce que, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que l'État congolais demande une résolution des Nations Unies qui institue ce tribunal. Que ce soit un tribunal institué par les Nations Unies. Parce que là, c'est sûr qu'ils auront d'abord un financement, et la justice sera au moins indépendante. Donc, moi, je suis un Kiwanja. Je suis victime et témoin en même temps. Ça, je le dis. Qu'est-ce que nous constatons? Nous ne pouvons pas aller devant un tribunal, car les gens qui ont commis ce massacre, ce sont des officiers qui collèrent aujourd'hui, des officiers qui nous gèrent encore aujourd'hui au Nord Kivu. C'est souvent les militaires, je suis désolé, c'est l'ex des GNDP, de l'ancien PD Goma, et certains militaires rwandais, officiers rwandais. Quelle sera la compétence de ce tribunal qui va arrêter un général rwandais? Parce que nous connaissons qu'il a tué tel à Kiwanja, il a tué tel à Kibumba, il a tué tel à Goma, il a fait des massacres, ils ont enterré des gens, ils ont tout ce que vous voulez. Donc moi je crois que cette allure-là ne nous aidera pas. Il faut absolument qu'il y ait une résolution des Nations Unies, notre justice est incertaine, même s'il va porter des étrangers, ils n'auront ni compétence ni la force. Arrêtez Dimoulin, là. Aujourd'hui, même les tribunaux ne sont pas capables de l'arrêter malgré tous les rapports et les témoignages. Les victimes ne peuvent pas témoigner parce qu'ils vont mourir demain. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Jean-Claude de Kiwanja, qui pose plusieurs questions. Notre invité est toujours en ligne. Dites-nous, monsieur Dimouchata, on parle plutôt de crimes internationaux. Est-ce que vous pouvez donner quelques définitions, puis revenir aux préoccupations de nos auditeurs?
Merci beaucoup, madame. Les définitions sont parfois assez longues, mais pour essayer d'expliquer à nos auditeurs, le crime visé par ce projet de loi sont les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide. Alors, les crimes de guerre, commençons par là, sont les crimes qui sont généralement commis en temps de guerre et qui sont de violations graves du droit de la guerre. Et ces violations concernent principalement, si on peut les citer, les atteintes qui sont portées, par exemple, aux personnes civiles pour bien protéger. Les personnes civiles, ça peut être des populations civiles, et les biens protégés, ça peut être des biens culturels comme une église, des écoles, ainsi de suite. Si pendant la guerre, les militaires ou ceux qui font la guerre ou des individus s'attaquent à de tels biens, qui peuvent faire l'objet donc de poursuites pour crimes de guerre. Il y a toute une liste de faits qui sont des faits qui sont prohibés donc par le droit de la guerre. Et si on veut se référer, on peut avantageusement se référer aux conventions de Genève ou au statut de Rome pour voir la définition des éléments qui sont constitutifs de ces crimes de guerre. Mmh. Alors pour ce qui est des crimes contre l'humanité, ce sont des crimes qui peuvent se commettre en temps de paix ou en temps de guerre. Mais leur spécificité, c'est que ce sont des faits qui sont des infractions qui sont commises de manière systématique, c'est-à-dire que vous commettez une infraction, mais vous les répétez, ou de manière généralisée, c'est-à-dire vous le commettez sur un grand nombre donc de victimes. Alors, pour ce qui est des crimes de génocide, ce sont des crimes qui comportent des éléments constitutifs qui tendent à porter atteinte donc à la survie d'un groupe, je veux dire identifié comme tel, il peut s'agir d'un groupe ethnique, il y a un groupe national, je pense, et voilà, ce sont principalement de façon ramassée les idées générales qui concernent ces
crimes.
Une définition assez appropriée, on peut se référer donc utilement donc au statut de Rome ou aux conventions qui répriment ces différentes infractions.
Mais à ce moment-là, on a l'impression que ce sont les mêmes infractions que, par exemple, que peut se saisir la Cour pénale internationale.
Effectivement. Du point de vue donc matériel, ce sont les mêmes infractions. Et vous savez, pour répondre à la question de notre ami, c'est vrai que la Cour sera une Cour nationale. Il ne s'agit pas d'une Cour qui est créée par les Nations Unies. Il s'agit d'une Cour qui est créée par une loi nationale. Évidemment, cela comporte, je partage avec lui quelques limites, mais tout dépend de la manière dont les choses peuvent être organisées. De l'indépendance nécessaire dont peut disposer la Cour et des moyens qui pourront être mis à sa disposition aussi bien par la RDC elle-même que par ses partenaires.
Oui, mais pour le cas présent, les moyens financiers viendront d'abord de la RDC ou bien ils comptent, la RDC compte sur ses partenaires dans ce projet de loi?
À bien lire le projet, d'abord, on doit savoir que c'est une Cour nationale, donc c'est à la RDC qui doit financer, mais en même temps, on voit l'ouverture que la RDC compte sur ses partenaires, non seulement pour les moyens financiers, mais aussi pour les moyens humains. Vraiment, la présence du personnel étranger à travers les différentes structures donc, de l'institution. Évidemment, pour le moment, dans les textes, cette présence me semble être assurée que pour le juge, mais au niveau du parquet, et au niveau de l'unité des enquêtes, il reste encore dans la loi, je pense, des problèmes et on n'a pas assez de précision si cette présence sera étrangère, sera garantie à 100% ou elle reste facultative. Alors, pour revenir à la question importante de notre ami sur le partage de compétences, je pense que la Cour pénale internationale continue son travail. C'est une juridiction qui répond au principe de solidarité, donc qui est secondaire par rapport aux juridictions nationales. Et si on peut bien organiser au niveau national donc les juridictions aptes à faire des poursuites qui soient de manière indépendante et qui assurent des procès équitables, je pense que cela ne pourra que renforcer aussi l'efficacité de la Cour pénale internationale.
Et cela nous emmène à cette question de Blaise de Kindou qui voudrait savoir quelles sont les garanties. Alors c'est bien beau d'avoir des textes, d'avoir autant de juridictions, mais quelles sont les garanties qu'effectivement ce tribunal-là pourra lutter contre l'impunité?
Bon, je pense que c'est en termes, pour le moment, on est en termes d'intention exprimée par le gouvernement.
Oui.
Et nous le serons, j'espère, moi autant que lui, que cette juridiction sera effectivement fonctionnelle. Comme toute chose qui est à ses débuts, ou disons en termes d'intention, parce que la loi n'est pas encore passée, et je pense que dans le projet de loi, il y a encore des questions qui doivent être réglées au niveau des parlementaires, parce que la loi, dans son stade actuel, je ne pense pas qu'elle soit parfaite, il y a des questions techniques qui se posent par rapport aux instruments existants, par rapport peut-être à la Constitution, par rapport à la loi. Il y a des choses à parfaire et finalement, le processus qui sera déterminant une fois que la loi passera, ce sera le processus de planification pour la mise en œuvre justement du tribunal. Et l'autre plus grand défi, ce sera le fonctionnement au quotidien de ce tribunal et sa capacité à demeurer indépendant. Parce que s'il n'est pas indépendant, je crains fort aussi, comme notre ami auditeur, qu'il ne puisse pas être efficace et qu'il tombe aussi dans la léthargie, peut-être qu'on constate au niveau de nos juridictions, il en a peut-être de compétences au jour d'aujourd'hui.
Nous allons écouter Franck de Goma et Jean Desvieux qui se trouve ici à Kinshasa. Je rappelle nos contacts, le 081-890-69-69, 081-890-69-69, ou nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Et la question qui lance notre émission, que pensez-vous de la création d'une cour spécialisée des droits de l'homme? C'est un projet qui a été déposé au niveau du Parlement, donc c'est encore en pleine discussion, c'est encore en des prospections, et vous, quel est votre avis si on arrivait à créer ce genre de tribunal? Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas de nous contacter, le temps de donner votre nom, la ville d'où vous appelez, et aussi votre numéro de téléphone, et nous nous ferons un plaisir de pouvoir vous rappeler.
Parole aux auditeurs.
Franck, bonjour.
Bonjour madame, bonjour tous les locataires.
Nous vous écoutons, Franck.
Oui, madame, il est évident ce jour-là que le système judiciaire congolais n'est pas indépendant, comme il devait normalement être.
Mm-hmm.
Donc, nous, on croit que les initiateurs de ce projet viennent de faire une sorte d'aveu de fait, même si c'est en retard, c'est à la fin de la législature. Donc, ils avouent aujourd'hui que Tolérance zéro n'était qu'un slogan, que ce soit à propos des crimes contre l'humanité, que ce soit à propos des crimes ordinaires. Donc la justice au Congo, ça ne marche pas. Et nous ne croyons pas qu'aujourd'hui il faut faire appel aux magistrats étrangers, pour faire fonctionner la justice au pays. Hein? Donc nous croyons que cela est un objet. Hein? Les sénateurs et les députés doivent tout simplement réfuter ce projet de loi.
Mais à votre avis,
est-ce qu'une telle institution existe dans d'autres pays du monde? Nous ne pensons pas. Nous ne croyons pas. Hein? Nous ne croyons pas. Il y a pas mal de crimes qui ont été commis au pays où on a besoin de magistrats engagés qui devaient se faire de ce dossier-là. On n'en a pas vu. Rappelez-vous de l'épuration publique de l'année 90 au Katanga. Pour quel magistrat nous a saisi de ce dossier-là? Aujourd'hui, quand on parle des étrangers, nous, on pense que c'est une insulte à la sécurité du pays.
Oui, et à votre avis, Franck, le meilleur mécanisme pour lutter contre l'impunité, à votre avis, quel serait le mécanisme que vous proposez?
Nous avons besoin, madame, de magistrats audacieux qui peuvent se saisir de tous les dossiers tabous, de tous les dossiers difficiles, rappelez-vous, hein, de tout ce qui se raconte dans la France. Des détournements, il y a des cas connus, même des enfants, détournements des fonds de la CNCA à Brazzaville, il y a les dossiers de Tumbola, les dossiers Mayobo. Donc, toutes ces personnes connues qui sont impliquées dans le détournement et dans les violations de l'ordre, nous avons besoin de magistrats congolais qui peuvent saisir de ce dossier-là. On a besoin des gens comme ça. Mais quand on croit que non, et bon, avec les injonctions politiques, on n'est pas en mesure de faire fonctionner la loi et la justice normalement, et qu'aujourd'hui, il faut faire recours aux magistrats étrangers, c'est quand même une honte pour notre pays.
N'oublions pas que cette cour prévoit une cour hybride, donc ce n'est pas seulement les étrangers, il y aura aussi des nationaux.
Mais il y a aussi un problème de moyens. Et pourquoi nous savons comment les expats exigent de se faire traiter au pays? Évidemment, quand ils seront au Congo, ils vont venir qu'ils soient ma campagne, à Bombay, avec des moyens, colossaux, avec des bons salaires. Pourquoi est-ce que cet argent-là ne peut pas être utilisé pour améliorer les conditions de nos magistrats que nous avons au pays? Il y a quand même des garçons intelligents, des magistrats intelligents, mais peut-être à cause de la souffrance, des conditions dans lesquelles ils travaillent. Il faut encore un pour que ça se connaisse tous.
Merci Franck pour votre intervention. Jean des Dieux, vous êtes ici à Kinshasa. Nous vous écoutons. Bonjour.
Bonjour madame. Moi, je salue la création de cette cour parce que les cours d'appel sont dans les bottes des autorités territoriales. Ce que je voudrais tout de suite, c'est savoir qui peut résoudre la question que nous avons, c'est-à-dire une tuerie à grande échelle ordonnée par les autorités territoriales dont j'ai été des identités. Qu'est-ce que je peux faire pour accéder à la justice? Les autorités territoriales ne peuvent pas être jugées par leurs subordonnés, c'est ça.
Donc pour vous, si on arrivait à adopter cette loi au niveau des deux chambres du Parlement et promulguer pour la création d'une cour spécialisée, vous pensez que ce serait une bonne chose? Nous vous remercions Jean des Dieux de Kinshasa, mais ce qui vous intéresse, c'est de savoir comment saisir si on arrivait à créer ce genre de tribunal. Nous remercions encore une fois pour votre participation.
Parole aux auditeurs.
Et nous revenons à notre invité. Il s'agit de Monsieur Guy Moussiata, qui est spécialiste, il est chargé du programme de lutte contre l'impunité au Centre international pour la justice transitionnelle. Vous êtes aussi spécialiste en la matière. Dites-nous, est-ce que ce genre de cours a déjà existé ailleurs, dans d'autres pays? C'est la question même de Franck de Goma.
Merci, madame. Le cours national avec une compétence sur les crimes internationaux ont existé. Évidemment, les modalités de création diffèrent. Il y avait le tribunal social pour la Sierra Leone. C'est un tribunal qui a été créé par un accord entre les Nations Unies, le Conseil de sécurité, donc, et l'État Sierra Leone. Mais ici, nous sommes spécifiquement dans un processus de création d'un tribunal qui est un tribunal créé par une loi nationale, mais avec une compétence donc sur les crimes de droit international. Mmh. Et je pense que le modèle, quelles que soient les modalités de création, les modèles de fonctionnement peuvent être donc des modèles qui peuvent être adaptés par rapport donc à chaque pays. Et c'est dans cette situation que nous nous retrouvons. Et je pense, contrairement à notre auditeur Franck, je pense qu'il y a nécessité de trouver une réponse. À défaut d'avoir une réponse, je dirais, par la communauté internationale, donc par le système des Nations Unies, face aux graves violations qui ont été commises, des graves crimes de sang qui ont été commis dans notre pays, je pense que l'initiative en soi ne peut pas être jugée mauvaise. Mais tout dépend de la manière dont cette initiative va être conduite et surtout la manière dont elle va être mise en œuvre, opérationnalisée et les résultats auxquels nous pouvons advenir. Parce que ce qui est important, c'est que les crimes ont été commis en République démocratique du Congo. Référez-vous simplement au rapport du mapping publié par les Nations Unies sur la cartographie des crimes commis en RDC. Je pense qu'on a connu des graves crimes et il est impérieux que soit au niveau de la communauté internationale, soit au niveau de notre nation, accompagné évidemment par la communauté internationale, que nous puissions donner une réponse à ces crimes. Parce que si nous ne le faisons pas, ces passés vont nous poursuivre. Et comme on sait que l'impunité est cyclique, donc nous serons encore rattrapés dans notre nécessité de consolider la démocratie au Congo par l'impunité. Et je pense que les initiatives doivent être encouragées, quitte à ce qu'elles soient bien canalisées et que justement, qu'on y mette des moyens pour qu'on arrive à des résultats qui soient des résultats de lutte contre l'impunité et que tout le monde réponde de ses actes devant la loi.
Et que pensez-vous, France, qui ajoute en disant que c'est carrément un aveu d'impuissance des juridictions nationales congolaises?
Il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les mécanismes qui fonctionnent pour la répression de ces crimes, que ce soit la Cour pénale internationale, que ce soit nos propres juridictions locales, les résultats que nous avons au jour d'aujourd'hui sont des résultats très limités. En parlant simplement depuis l'entrée en vigueur du statut de Rome, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on fait de nombreux cas en les criminels, que ce soit au niveau de la Cour pénale ou au niveau de nos juridictions militaires, ces cas ne sont pas vraiment nombreux. Difficilement, on atteindra une cinquantaine de procès. Et au niveau de la Cour, nous n'avons que pour ce qui concerne le Congo, les cas qui demandent au bang à Mathieu Ngoukolo Germain Katanga et à Mbarushima qui vient de commencer. Bon, les autres accusés ne sont pas arrêtés. Au niveau national, nous avons des procès, mais qui de façon générale concernent les militaires subalternes, et pas des grands officiers, moins encore des hommes politiques qui ont été, qui sont des auteurs présumés de crimes qui ont été commis, même avant 2002. Donc vous voyez, tout cela donne une mauvaise image de la face de la lutte contre l'impunité. Donc des crimes de sang, de nombreux crimes sont demeurés impunis, et on ne sait pas véritablement consolider un état de droit avec les victimes qui n'ont pas eu la réponse par rapport aux préjudices qu'ils ont subis. voilà la nécessité qui doit militer pour qu'on trouve un mécanisme adéquat. Je pense que celui qui peut être un, tout à ce qu'il soit bien organisé et mis en place, et peut-être qu'on peut espérer une synergie d'action combinée avec le travail de juridiction ordinaire et la Cour pénale internationale pour qu'on puisse arriver à une réelle lutte contre l'impunité en RDC.
Monsieur Guy, vous faites un restant en ligne. Nous allons prendre d'autres auditeurs qui vont donner leur avis sur la création de cette Cour spécialisée.
Parole aux auditeurs.
Et en ligne, nous avons Madame Eve Bazaïba qui est sénatrice. Bonjour, Madame.
Bonjour, Madame la journaliste.
Nous avons suivi au cours du débat votre position face à la création de cette Cour spécialisée des droits de l'homme. Pourquoi cette position? Pourquoi vous pensez que cette Cour n'est pas une nécessité actuellement?
Je n'ai pas parlé en termes de nécessité, j'ai parlé en termes de réalisme et de pragmatisme. Je ne voudrais pas qu'à ce stade, ça soit créé pour la consommation extérieure. Vous savez, madame, si on a la volonté de lutter contre l'impunité, on commencerait d'abord par agir actuellement. Je vais vous dire pourquoi j'ai pris la position de dire que ce n'était pas opportun et qu'il y avait moyen de faire autrement pour lutter contre l'impunité. Je vais commencer par vous dire que les cours et tribunaux actuels dans notre pays ont des compétences de connaître des infractions visées par cette Cour spécialisée. En fait, la Cour spécialisée dont on parle, il s'agit de connaître les crimes de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, et que ce sera donc des graves crimes de violation des droits de l'homme qui relèvent actuellement les compétences de la Cour pénale internationale telle qu'elle est prise dans le chapitre 2 du statut de Rome pour la Cour pénale internationale et dans son article 5. J'ai dit les cours et tribunaux pourquoi? Parce que nous avons adopté une loi au Sénat, au Parlement, qui donne ses compétences à la Cour d'appel. Nous avons donné ses compétences à la Cour d'appel. Il est seulement question de pouvoir renforcer ici, spécialiser les magistrats, renforcer les capacités des cours existants. La loi sur l'OCJ, l'organisation des compétences judiciaires que nous avons adoptées, qui a donné ses compétences pour connaître les crimes des génocides, les crimes des droits de l'homme et tout ça. La loi existe. Il ne faut pas qu'on fasse la multiplicité des cours. Parce qu'il y a eu des tribunaux que nous avions créés, des tribunaux de travail, les tribunaux de travail ne fonctionnent pas. Les tribunaux de commerce fonctionnent à quelle vitesse? Même les tribunaux de paix. Dans cette loi, elle-même, le projet de loi comporte les germes de la non-applicabilité sur ce terrain. Parce qu'il y a la confusion entre la création et la désignation des infractions. Autre chose, il y a un projet de loi qui a été déposé par le ministre de la Justice qui se trouve actuellement en discussion à l'Assemblée nationale pour la création des chambres spécialisées. Alors, on veut une chose, on veut son contraire, qu'est-ce que nous voulons réellement? La Cour militaire actuellement, je sais qu'il n'y a pas assez des affaires qui sont finalisées. La Cour militaire est en train déjà d'appliquer le statut de Rome de la Cour pénale internationale sur les crimes de violence sexuelle faites en temps de conflit. Il y a le procès Songomboyo. Sur les crimes contre l'humanité, l'assassinat ou le massacre des personnels des Nations Unies. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a l'incidence financière à côté. Déjà, nos cours des tribunaux qui sont ici travaillent dans des conditions très difficiles. Vous allez ajouter à créer une autre cour. Où est-ce que vous allez avoir des moyens? Ça sera un mort-né. Regardez la situation au Sénégal. On a voulu la création d'une telle cour. La volonté des juges ici n'avait été là. Mais les moyens ont fait qu'on ne puisse pas les juger. Il y a un budget voté par les Nations Unies, plus de 100 millions d'euros pour faire fonctionner la Cour pénale internationale. Les Congolais sont des bons élèves de la CPI qui en ont expérimenté. Si vraiment il y a la volonté de lutter contre l'impunité, de donner la réponse aux crimes graves des droits de l'homme, mais pourquoi Bosco Ntaganda ne peut pas être envoyé à la Cour pénale internationale? la même autorité qui veut lutter contre l'impunité de procéder à une conférence de presse pour dire on ne peut pas livrer Bosco Ntaganda, on va plutôt le nommer au nom de la paix. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Donc, il ne faut pas nous leurrer, il faut faire une chose que les Congolais doivent se retrouver.
Et selon vous, quel est le meilleur mécanisme?
Le meilleur mécanisme pour lutter contre l'impunité en ce qui concerne les crimes, c'est une grave actuellement, c'est de collaborer, de coopérer avec la Cour pénale internationale. On commence d'abord par envoyer M. Bosco Ntaganda et tout ce qu'il y a comme autorité politique et militaire là-bas. Il y a un élément de taille que j'avais oublié de le dire. Lorsque dans cette Cour, on propose qu'il y ait des magistrats extérieurs internationaux, c'est en contradiction avec la Constitution, c'est l'inconstitutionnalité pure. Parce que pour être magistrat en République démocratique du Congo, il faut d'abord être congolais. Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce qu'on va le payer? D'un côté, on va payer des experts internationaux de la manière dont l'on sait qu'on les paye. De l'autre côté, nos magistrats congolais seront sous-payés dans un même territoire. Ils vont rendre la justice comment? Nous allons tuer nos cours des tribunaux ici. Et pour aller favoriser, donner l'emploi au niveau intérieur, si vous voulez.
S'il vous plaît, madame, mais que pensez-vous? Parce que la CPI, nous savons bien que c'est à partir des crimes commis en 2002, et pourtant cette cour aura vraiment la largesse d'aller jusqu'en 1990, jusqu'à ce jour. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est quand même un atout?
D'abord, je voudrais dire pourquoi on doit commencer en 1990. Pourquoi on ne commencerait pas depuis 60? Pourquoi on commence seulement en 1990? Il n'y a pas eu de crimes qui étaient commis en 60, en 61, en 64, il y en a eu des crimes. Moi, je voudrais dire ceci. Faut pas adopter une loi, faut pas créer une cour où nous savons bien que dans des conditions actuelles, cette cour ne fonctionnera jamais. Ça serait juste pour une consommation extérieure pour dire voilà, nous avons la volonté. Nous voulons l'effectivité. Il faut d'abord commencer par les possibilités des mécanismes que nous avons actuellement de lutte contre l'impunité. Il s'agit de crimes internationaux. Amener les gens à la Cour pénale internationale. Coopérer avec les tribunaux au niveau international. Si c'est ici au Congo, il y a des cours des tribunaux qui en ont les compétences, la Cour d'appel. On a déjà envoyé combien de gens à la Cour d'appel là-bas. Renforçons les capacités des cours des tribunaux qui existent. Renforçons les capacités des magistrats en les spécialisant par rapport à cette spécificité des crimes graves des droits de l'homme.
Merci beaucoup.
C'est important.
Merci beaucoup, madame, pour votre intervention. Nous allons aussi écouter l'avis de Kassamba qui se trouve à Bounia. Bonjour, Kassamba.
Bonjour madame Chantal Lumba, bonjour l'invité, bonjour les auditeurs de la radio au Capi. Moi, mon problème, je voudrais d'abord dire ceci, que cette cour-là, c'est comme une cinquième roue à une voiture. On veut inventer une autre roue, alors que ce qu'il y a, les tribunaux et autres ne fonctionnent pas correctement, non pas parce que les non-magistrats ne sont pas compétents, c'est parce qu'ils travaillent dans des conditions pénibles. Madame qui vient de me procéder a tout dit. Il faut améliorer ce qu'il y a, ce que nous souhaitons. Aujourd'hui, on parle de cette cour-là qui va commencer à chercher les gens qui ont été passés depuis 1990. Or, nous savons qu'il y a des gens qui ne pourront pas passer là-bas, puisque certaines personnes qui ont presque fait même les génocides dans la ville de notre province, dont nous faisons le nom, sont maintenant au pouvoir, ils sont quelque part là-bas, bien qu'ils n'aient pas le pouvoir, même ils ne voient pas le petit d'une telle cour. Quand on améliore la condition des non-magistrats, qu'on les laisse faire le travail indépendamment. La justice doit être indépendante et que les politiques ne puissent pas s'y mêler pour qu'elles puissent remplir correctement son rôle. Je peux suivre tout le monde, comme le dit la loi, ni le petit de la loi, comme le dit la Constitution. Mais s'il y en a qui continuent à aller à marge de la loi et qui l'homme d'une façon tactique sont en dessous de la loi, mais je ne vois pas pourquoi une telle cour, puisque franchement, ça sera une cour à mort, comme l'a dit madame Eva Bazaïdou.
Merci beaucoup, Kassamba. Et à votre avis, ça ne vaut pas la peine de poursuivre ce genre de projet, et vous estimez qu'il faudrait renforcer les cours et tribunaux internes. Nous vous remercions, Sassamba, et surtout vous avez insisté, hein, si on arrive à renforcer les cours et tribunaux, que la justice soit vraiment indépendante. Bonjour Théodore.
Bonjour madame.
Théodore, vous êtes en Boujimaï, nous vous écoutons.
Ok, bon, je salue la création des cours spéciales des droits de l'homme et une autre autorité tribunale contre l'humanité, c'est une bonne chose. Mais nous regrettons, il y a des situations qui se passent. Nous savons que ici, chez nous au Congo, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Toutefois, en jugeance, des droits politiques sont reconnus au seul Congolais. Et aussi, les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Mais jusqu'à hier, à l'est là-bas, vous savez qu'il y a des mamans qui sont en brousse pour le moment. Il y a des tueries, il y a des viols, ça continue. Mais quand on arrive à créer encore des cours de tribunaux internationaux, quand on n'arrive pas à réaliser d'abord ceux qui sont sur place, il y a des crimes, il y a des viols, il y a beaucoup de peines sur le terrain. Mais le gouvernement se mêle dans l'histoire, par exemple, des marches pacifiques qui ne sont pas garanties, les droits de liberté à la presse qui ne sont pas garantis. Des petites choses, on n'arrive pas à les faire, mais ils veulent aujourd'hui faire des grandes choses quand ils n'ont pas de moyens. C'est ce que nous disons, que la FDLR et les MRA à l'est de notre pays sont boutés dehors. Parce que comment, c'est qu'il y a complicité. Il doit y avoir les gens qui sont mêlés dans cette histoire. Jusque hier, il y a des tueries, les gens sont en brousse jusque hier. C'est ainsi que nous nous lançons un appel pour dire au gouvernement de bouter d'abord tous ces gens-là dehors, à deux à trois mois d'élection. Vouloir créer cette histoire, pour moi, je trouve que c'est bon, mais c'est pas le moment. Et d'abord, les étrangers soient boutés dehors. Voilà un peu.
Théodore, nous vous remercions pour votre participation. Je rappelle nos contacts. Tous ceux qui veulent participer à cette émission, que vous soyez en RDC ou à l'étranger, il suffit de composer le 081-869-69-081-869-69. Bien sûr, si vous êtes à l'étranger, il suffit d'ajouter le préfixe 00243 ou carrément, vous pouvez nous écrire à l'adresse internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs.
Et nous revenons à notre invité, M. Dimou Chata, qui est toujours en ligne. Comme je l'ai dit, il est chargé du programme de lutte contre l'impunité au Centre international pour la justice transitionnelle. Nous savons que ce centre est, en fait, appuie les structures, les sociétés qui veulent organiser, qui veulent consolider la confiance civique dans leurs institutions à travers les dispositifs de protection des droits de l'homme. C'est une structure qui est non gouvernementale. Monsieur Guimouchata, nous avons suivi notre dernière série d'auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous rassurer? Est-ce qu'il y a une contradiction entre la création d'une cour spécialisée comme celle-ci et la constitution de la RDC?
En premier lieu, madame, non, il n'y a pas de contradiction parce que l'article 149 de notre constitution autorise donc la création de juridictions spécialisées. Ce qui est interdit, c'est la création de tribunaux extraordinaires ou de tribunaux d'exception. Et ainsi donc, la cour spécialisée entre dans les genres de juridictions qui sont autorisées donc par notre constitution. Par exemple, à l'instar de ce que vous dites, avons déjà comme les tribunaux de commerce ou les tribunaux pour l'enfant. Maintenant, dans ce que vient de dire les auditeurs, il y a beaucoup d'éléments qui sont importants. Et d'abord, c'est d'insister que, à l'heure actuelle, le cadre légal de la répression des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, du génocide, à l'heure de ces pose problème. Vous avez cette même matière qui est organisée par le Code pénal militaire. Et les juridictions militaires donc ont cette compétence. Avec la loi dont madame est venue de parler tout à l'heure, on a donné cette compétence au cours d'appel. Cela a été fait dans la perspective de l'adoption de la proposition de loi de mise en œuvre du statut de Rome. Parce que là, on a seulement intégré la compétence au niveau de la cour d'appel, mais les matières qui doivent accompagner, qui doivent permettre à la cour d'appel de pouvoir statuer sur ça, sont contenues dans la proposition de loi de mise en œuvre qui, elle, je crois fort que même quand la législature va se terminer, ne sera pas
donc examiné. Et vous avez maintenant la cour spécialisée qui arrive, mais qui, elle va aller au-delà donc de 2002, de l'entrée en vigueur du statut de Rome, mais va remonter jusqu'aux années 90. Donc ce qui veut dire qu'il y a nécessité, à travers cette loi sur la cour spécialisée, de faire une harmonisation du cadre légal. L'existence de la Cour pénale internationale qui n'est payée pas aux juridictions nationales, n'est-ce pas, leur obligation première de faire la poursuite des crimes de violation grave du droit international et du droit international humanitaire. Mais le problème qui est là, la RDC a connu de graves crimes et singulièrement pendant la période couverte par les guerres successives que nous avons connues. Et qu'est-ce allons-nous faire de ces lourds passés constitués de graves violations des droits de l'homme? Tout le monde avoue, nos juridictions sont incapables, la CPI a une action limitée, bon, la communauté internationale, par l'écrissement des Nations Unies, ne veulent pas d'une création où ils n'ont pas encore fait d'un tribunal pénal international. Que faisons-nous de ces passés? Restons-nous les bras croisés ou entamons-nous un processus qui nous permettent de pouvoir répondre, n'est-ce pas, aux demandes des victimes pour la justice, aux demandes de nos communautés, aux demandes de toutes les populations congolaises. Et je pense que les initiatives qui sont prises doivent être encadrées et encouragées. Et dans ce sens, il me semble d'abord, au jour d'aujourd'hui, qu'il est important, avec ce qui a été déjà pris, attribuant la compétence au cours d'appel, qu'on arrive d'abord à retirer du code pénal militaire cette compétence, que ça n'enlève plus de juridiction militaire, et ensuite qu'on prenne la loi de mise en œuvre du statut de Rome qui régit le crime à partir de 2002, et ensuite qu'on trouve la réponse, donc ça peut être par la cour spécialisée présente, aux crimes qui ont été commis, n'est-ce pas, avant 2002. Tout ceci est une question technique. Il y a ce que nous appelons en droit la compétence concurrente. C'est une question technique qui doit être résolue par le juge, qui peut faire en sorte que la compétence sur le même crime soit partagée par exemple par une cour spécialisée avec le cours d'appel, quitte à intégrer les dispositions des mécanismes de renvoi des affaires entre ces deux institutions. Donc je pense que c'est le genre de questions techniques qui peuvent être réglées par des spécialistes et au niveau du Parlement, de telle sorte que nous puissions avoir un cadre légal qui soit harmonisé et qui soit aussi efficace pour répondre justement à ces gens de crise. Parce que le premier défaut est celui de ne pas avoir un cadre approprié qui permet que les accusés ou les présumés auteurs fassent entre les mailles du filet de filet, parce que la loi n'organise pas bien le système de répression.
Et il y a ce point qui revient souvent, à savoir de l'indépendance même de cette juridiction. Par exemple, le procureur, si on arrivait à adopter, à promulguer ce projet de loi pour la portant création d'une cour spécialisée, est-ce que le procureur sera-t-il indépendant? Est-ce qu'il ne va pas dépendre lui aussi du ministre de la Justice?
Je pense que le parti au jour d'aujourd'hui, avec la modification de la loi sur le statut des magistrats, il y a quand même un lien de dépendance entre le parquet et le ministre de la Justice, mais en termes de pouvoir d'injonction. Je pense que cette injonction ne doit pas être envisagée dans le sens péjoratif. Je comprends bien par rapport à nos pratiques qui ont déjà été domiciliées dans notre pratique judiciaire, mais je pense que ce pouvoir d'injonction devrait être envisagé de manière positive. Et c'est d'ailleurs, mais la loi ne prévoit dans un esprit positif et non pas dans un esprit de blocage parce que le magistrat reste indépendant de ce constitutionnel. Mais qu'est-ce que le magistrat lui-même de son indépendance? C'est dans ce sens qu'il a été envisagé peut-être l'injonction de magistrats étrangers. On peut utiliser les mécanismes afin de renforcer justement cette indépendance. Je pense que cela peut être fonctionnel. Et si magistrats étrangers sont minoritaires, ne seront pas majoritaires, mais peuvent, leur présence pourra peut-être renforcer la question d'indépendance. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai entendu un auditeur dire que c'est parce que les magistrats sont dans de très mauvaises conditions de travail. Effectivement, les magistrats sont peut-être dans de mauvaises conditions de travail, mais depuis sous peu, je pense que les conditions des magistrats ont été légèrement améliorées, si on compare par rapport aux autres corporations. Mais est-ce que cela a conduit nécessairement à une amélioration de la qualité de la justice? Je me pose des questions, chacun peut évaluer. Je n'accuse pas le magistrat de ce que je suis tout à fait d'accord qu'on doit donner suffisamment de moyens
il manque de moyens d'enquête, les magistrats n'ont pas suffisamment de salaire, ainsi de suite. Mais avec l'existence, que faisons-nous? Que faisons-nous? Est-ce qu'avec ce que nous avons, pouvons-nous par nous-mêmes au jour d'aujourd'hui organiser une justice qui soit suffisamment efficace? Je pose bien la question. Est-ce que la communauté internationale, sans de garantie d'indépendance, peut-elle réellement injecter des moyens pour aider, n'est-ce pas, la justice congolaise à pouvoir remonter? Je pense qu'il y a autant de problèmes qui doivent être d'abord résolus dans la maison avant de pouvoir pointer du doigt, donc, je pense,
Il y a cette question aussi délicate des finances. Il est vrai que dans ce projet de loi, concernant ce qui concerne la traite, plutôt le troisième chapitre de ce projet de loi, et où on fait allusion aux peines, on dit par exemple, d'abord la compétence matérielle concerne les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide. Ces crimes sont punis de la peine de mort pour se conformer aux peines prévues par le code pénal congolais pour les crimes du genre qui sont bien sûr punis de la peine de mort. Et dites-nous un peu, nous connaissons cette discussion qui continue concernant l'abolition de la peine de mort. C'est vrai que la RDC, c'est vrai qu'on l'a gardée dans notre code pénal, mais on n'exécute pas. Mais au regard des bailleurs de fonds, par exemple ces pays qui ont déjà aboli la peine de mort, est-ce qu'ils pourront être favorables à une cour spécialisée qui continue à garder la peine de mort dans son code?
Effectivement, madame, cela pose problème. Le fait d'avoir prévu la peine de mort divise aussi la plupart des juristes congolais, et qu'il est évident que les pays qui ont déjà aboli la peine de mort, nombreux de ces pays conditionnent toujours leur aide à la justice par l'abolition de la peine de mort. Donc de ce côté, on peut s'attendre effectivement qu'on puisse manquer de moyens. Mais peut-être que, tel que j'ai lu la loi, effectivement, il y a un problème de peine, parce que il y a aussi des peines à caractère politique et autres qui ont été ajoutées. Mais, tant que nous avons aujourd'hui, il a déjà suivi un long processus. C'est-à-dire, il y a une très bonne version du projet de loi qui a été écrite par la Commission permanente de réforme du droit congolais. Et ça, le ministre là a évoqué devant le sénateur cette version. J'espère qu'on pourra améliorer la loi dans ce sens. Et bien, les questions de peine pourront être donc bien tranchées, parce qu'on se pose bien la question aussi comment quelqu'un qui a été condamné à la peine de mort, donc qui doit être exécuté, pourra faire l'objet de privations de droits d'exercice, de droits politiques et autres, qui sont des peines complémentaires qui ont été ajoutées dans la loi. Donc, il y a comme ça dans la loi, je dirais, qu'il y a des coquilles, des problèmes techniques, mais je pense bien que les parlementaires auront l'occasion de nettoyer cette loi et au besoin. Je dirais de faire passer aussi la loi de mise en œuvre, qui, à mon avis, si cette loi avait été passée avant la loi de mise en œuvre du statut de Corderan, pourrait permettre simplement à ce projet de loi d'être simplement une loi qui organise la répression des crimes avant le statut de Rome, mais après, on a appris donc sur la loi de mise en œuvre. Mais les choses ne se passent pas comme ça. J'espère qu'on pourra arriver à terme à une harmonisation de l'ensemble de cette
question. Restez avec nous, parce que c'est vrai que dans 5 minutes, nous aurons un bulletin d'information, mais nous aurons une seconde partie de l'émission. Nous aurons 15 minutes pour pouvoir poursuivre cette émission. Comme chaque mercredi, Parole aux auditeurs a deux parties. Nous allons écouter André qui se trouve à Kananga, Maître Abdoul à Kindou, et aussi lire les messages que nous avons reçus à travers notre SMS, notre numéro SMS, c'est le 081-684-73-07. Et nous allons d'abord écouter André qui se trouve à Kananga. Bonjour. Bonjour André. Nous avons l'impression que André est en train de suivre l'émission par son poste récepteur. Il peut l'éteindre parce qu'il y a un retour, c'est assez long et on a un vide à l'antenne, ce qui est assez désagréable. Prenons notre Abdoul. Bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Oui, nous vous écoutons à partir de Kindou.
Merci, je suis très content de cette émission et sur le plan de la création, le projet de création de la Cour spécialisée des droits de l'homme au Congo. À quelle cour sera agressé à exiger les crimes contre l'humanité? Mais toutefois, il me préoccupe beaucoup plus. Je commencerai d'abord par faire mienne les premières déclarations de celui qui m'a précédé, M. Jean-Claude de Kiwanga, qui a fini par dire d'abord que c'est peut-être une distraction. Moi, je commence d'abord par dire que c'est une distraction de la part de nos autorités congolaises. La distraction comment ? Aujourd'hui, nous avons des cours de tribunaux de notre pays qui répondent aux aspirations de la population, complètement non. Je peux donner, à titre d'exemple, il y a, depuis que l'on a créé les tribunaux de paix en République démocratique du Congo, il n'y a pas de magistrats, il n'y a pas fonctionnement même des tribunaux de paix dans des territoires qui ont été produits. Je peux donner à titre d'exemple, la ville de Kindu, par exemple. C'est toute une province qui n'a pas un tribunal de paix. Même un seul. Et ceci pourquoi? Parce qu'il y a un sens d'abord des juges et que l'État n'arrive pas peut-être à répondre aux aspirations et aux exigences d'information de ces juges-là. Mais comment aujourd'hui nous pouvons penser précisément à une très grande décision comme celle-là, qui sera appelée à juger les crimes contre l'humanité, pendant que nos juges d'abord actuels ne sont pas fixés. Et le nombre aussi de magistrats est très minime par rapport aux cours de tribunaux qui sont en train d'être fonctionnés. Actuellement.
Oui, quand même, vous savez, Maître Abdoul, qu'il y a tout un processus. Actuellement, il y a 1000 magistrats qui viennent d'être affectés et cela va continuer. Donc, vous pensez, vous jugez que cela ne sera toujours pas assez suffisant?
Justement, madame, vous voyez, il faut faire quelque chose en connaissant aussi les biens fondés de ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsqu'aujourd'hui, on va créer, par exemple, une cour des droits de l'homme qui sera jugée, qui sera comme appelée à juger les crimes contre l'humanité. Vous savez, dans tout ça, d'abord, il y aura d'abord la participation des autorités, des grandes autorités du pays, qui peuvent aussi être interpellées par cette cour-là. Mais non, le juge, lui, renseigné, qui reçoit peut-être, je ne sais pas, 500 ou 300 dollars, est-ce qu'il ne sera-t-il pas capable d'être corrompu? Et par la suite,
on
la loi.
Merci beaucoup, Maître Abdoul, pour votre intervention. Dans quelques minutes, nous allons suivre notre bulletin d'information. Et je rappelle à nos auditeurs qu'aujourd'hui, nous parlons de ce projet de loi qui entend créer une cour spécialisée des droits de l'homme. Notre invité est toujours en ligne. Nous aurons une seconde partie.
Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, lors de Kinshasa, et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient de lundi à vendredi de 11h à 12h et mercredi de 10h lors de Kinshasa.
Et nous revenons dans ce studio, Jérôme Gongo, pour parler de cette question qui nous intéresse tous. Un projet de loi a été porté au niveau du Parlement et ce projet de loi vise à la création d'une cour spéciale des droits de l'homme pour juger les auteurs et commanditaires des violations massives des droits de l'homme telles que des crimes contre l'humanité, de guerre, des génocides commis dans le pays depuis 1990. À ce jour, la cour prévoit dans sa composition une ouverture aux magistrats étrangers. Selon le ministre de la Justice et des Droits Humains qui a présenté ce projet de loi au Sénat, la Cour spécialisée des droits de l'homme matérialise la lutte contre l'impunité. Elle correspond à la volonté de renforcer et d'accélérer le processus de réforme institutionnelle de l'appareil judiciaire et sécuritaire. Ce tribunal aura pour mission d'organiser les enquêtes, les poursuites et les jugements des personnes présumées responsables des crimes internationaux. Et tout au long des 56 minutes qui viennent de s'écouler, les auditeurs ont donné l'avis. Qu'est-ce qu'ils pensent de la création d'une cour spécialisée des droits de l'homme? Notre invité, c'est M. Guy Mouchata. Il est chargé du programme de lutte contre l'impunité au Centre international pour la justice transitionnelle. Il est au bout du fil. Avant de pouvoir l'écouter, parce que nous avons encore une dizaine de minutes, nous allons lire les messages de nos auditeurs qui nous ont écrit à travers le 081-684-7307. Par exemple, Kairi, qui se trouve à Kalemie, nous écrit ceci. Pour réussir, il faut d'abord amnistier toutes les personnes qui ont commis des crimes dans le passé, et cela pourra permettre de gérer le futur. Donc, il estime qu'une cour n'est pas nécessaire, il faut plutôt amnistier les auteurs des crimes pour une consolidation de la paix. Il y a Tani de Bukavu qui pense qu'on devrait plutôt commencer par juger ou par cette cour Laurent Kunda. C'est l'avis de Tani de Bukavu. Au lieu que Laurent Kunda reste au Rwanda, il pense que la première personne qui devrait être jugée par cette cour, si elle arrive à être créée, c'est Laurent Kunda. Il y a aussi Nico de Mbujima qui nous écrit ceci. Les lois et renforcements s'exercent que sur les dirigeants et non, donc il estime que les lois ne s'exercent que sur les dirigés et non les dirigeants. Donc on a l'impression qu'il y a une justice à double vitesse. Et il voudrait savoir à quand est-ce que ce qu'on appelle communément les Kulunas en cravate seront aussi jugés. Nico, qui se trouve à Mbujimayi, il y a Volta, il est sociologue, il nous écrit ceci, c'est une bonne chose, mais ça risque d'être étouffé dans son éventuelle mise en application, car c'est un couteau à double tranchant. C'est ce que nous écrit Volta, qui se trouve, je crois, à Kisangani. Nous avons Denis, bonjour.
Bonjour.
Oui, Denis, nous vous écoutons.
Je voudrais dire que la mise en œuvre de la justice transitionnelle ne dépend pas seulement des chambres mixtes. Il faut voir que la justice transitionnelle dépend de plusieurs mécanismes. Pour l'instant, le mieux serait que les sénateurs adoptent d'abord une nouvelle loi pour remplacer les codes d'organisation et compétences judiciaires. Donc à partir de là, on peut maintenant cheminer vers la création des chambres mixtes. Parce que présentement, ça pose un problème. On va intégrer les magistrats et juges internationaux au sein des juridictions congolaises. Mais la procédure devant les juridictions internationales n'est pas la même avec notre procédure ici. Par exemple, en justice internationale, il y a la présence des juges d'instruction. Alors que dans notre juridiction, il n'existe pas de juges d'instruction. Vous voyez pas que le mieux serait d'abord d'abroger les codes d'OCJ et en élaborer un nouveau.
Votre point de vue, merci beaucoup Denis de Kisangani. Nous sentons que vraiment vous êtes un juriste de formation. Nous allons lire ce message de Franck qui nous écrit à partir de Vienne. L'intention de créer une telle cour est certes bonne, il faut traduire en justice tous ceux qui se sont engagés à commettre autant de crimes de telle envergure contre le peuple congolais. Toutefois, le problème se posera au niveau de sa fonctionnalité. Serait-elle vraiment indépendante et autonome sur tous les plans si la plupart de ceux qui doivent s'expliquer se retrouvent encore au sein des institutions gestionnaires en place, au pouvoir ou en dehors du pouvoir, cette cour risque de ne pas bien fonctionner de manière autonome. Il faut d'abord que tous ces investigateurs, se déplacent afin de ne plus devenir les mêmes patients, donc victimes et médecins de sa consultation, donc juge en vue de se rendre justice. Il y a Mbawa Mando, Vincent, qui nous écrit à partir de Kinshasa. Connaissant le manque d'indépendance avérée de notre justice, je crains qu'un tel tribunal ne serve le pouvoir à organiser des parodies de procès et à prononcer des acquittements pour des personnes que le pouvoir ne voudrait pas envoyer à la CPI, tel le cas de Bosco Ntaganda, ce que nous écrit Mbawa Mando Vincent, qui se trouve ici à Kinshasa. Et nous arrivons aussi, nous cheminons vers la fin de cette émission. Notre invité est toujours en ligne, il s'agit de M. Guy Moucheta, avant qu'il ne puisse prendre la parole pour une conclusion concernant ce sujet, ce projet de loi. Écoutons d'abord Jean de Colésie, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes le dernier auditeur, nous vous écoutons. Quel est votre avis?
Mon avis est que cette cour serait vraiment la bienvenue dans la mesure où il y a beaucoup de gens qui ont commis des crimes, qui ne sont pas inquiétés, qui sont aux affaires, hein, ils sont en train de errer ici et là, et ils volent encore l'argent du contribuable. Moi, je crois qu'avec l'association des magistrats internationaux, ça sera une très bonne chose, d'autant plus que les magistrats d'abord ici, l'appareil judiciaire est pourri, les magistrats sont corrompus. Donc, si on les mixe avec ceux qui viennent d'ailleurs, je crois qu'ils peuvent faire un bon travail, Il y a des gens qui ont commis beaucoup de choses, beaucoup de gaffes, hein. On ne sait même pas citer ici qui sont au pouvoir, qui sont à l'Assemblée provinciale, Kyungwakumwanga. Beaucoup de gens sont...
Vous devez éviter de... Ça, ce sont tout juste des accusations. Il n'y a que la justice qui peut les condamner. Donc, ce sont des accusations.
Évidemment, c'est ça qui fait retarder notre pays. Il y a des choses que nous devons dénoncer. Nous devons le faire. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons le faire. On a cité le Bosco, tout ça. Pourquoi pas citer les autres qui sont au pouvoir?
Parce qu'il y a déjà un mandat d'arrêt qui est contre lui. Donc, c'est différent.
Et voilà. Donc, il faudrait que tous ces gens-là soient jugés. Il faut qu'ils soient jugés ici. Si ça nécessite qu'ils soient transférés à la CPI, hein, nous sommes vraiment d'accord. Parce que le sang des Congolais, il y a 2 millions de Congolais qui sont morts. C'est plus que même la guerre mondiale. Mais qu'est-ce qu'on en fait des sangs de ces martyrs-là? Alors on ne va pas les laisser comme ça, non. Pour des gens qui mangent, qui sont rassasiés, ils prononcent des paroles, et il y a des tueries, tout ça, et ils ne sont pas inquiétants. Là, c'est pour ça que nous devons faire un effort de sorte que même notre gouvernement soit changé. Le gouvernement doit nécessairement changer parce que le gouvernement n'est pas le gouvernement d'État de droit. Il faudrait que l'on mette à la gouvernance des gens qui savent, qui ont cette notion-là du sens humain.
Oui, en tout cas, merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Le temps de remettre la parole à notre invité, M. Guy Mouchata. J'espère que vous êtes toujours en ligne. Monsieur Guy Mouchata, là nous avons des problèmes avec sa liaison téléphonique, donc il aurait pu conclure cette émission qui était essentiellement consacrée au projet de loi qui porte création d'une cour spécialisée des droits de l'homme, une cour, si on arrive à promulguer ce projet de loi, cette cour aura pour compétence de juger les auteurs et les commanditaires des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et aussi des génocides. Et au cours de cette émission, nous avons eu les avis des auditeurs, ce qu'ils pensent, est-ce que c'est bon une cour, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que c'est nécessaire pour l'instant. Et chacun des auditeurs, nous en avons eu une dizaine, ont donné leur point de vue. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette émission qui était réalisée par Titine Toutou, Pierre Lamégi et Jean-Noël Mokondo. Nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Entre-temps, nous disons également merci à M. Guy Mouchata parce que la ligne s'est carrément détériorée. On n'a pas pu le recontacter. Nous lui disons quand même merci d'avoir participé à cette émission. Merci aux auditeurs. Et comme je l'ai dit, demain, ce sera un nouveau numéro en prélude de la Journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée le 7-9 août. Nous allons nous focaliser sur une question. À votre avis, que faire pour faciliter dans votre milieu les actions humanitaires? Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Restez branchés sur Radio Capi pour la suite de ces programmes.